Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Dans Lectures en liberté, nous revenons donc au roman de Franck Bouys, Grossir le ciel. Gus ne sortit pas de la journée, tellement il se sentait mal à tousser et cracher des glaires comme un tubar. Tout ce qui s'était dit qu'il ferait la veille, il ne le fit pas. Il tenta de se réchauffer en buvant des grogs avec de l'eau-de-vie de prune qu'il gardait précieusement au fond de sa cave, de la fameuse qu'il faisait distiller dans le temps par les frères Mickey. À l'époque, on leur apportait les prunes, quand on avait des droits, et pour se payer en retour, les bouilleurs de crue gardaient la moitié de ce qui sortait de leur alambic pour le revendre plus tard. C'est comme ça que ça se passait en ce temps-là. Désormais, Gus avait toujours ses droits, mais les jumeaux Mickey étaient morts et enterrés, et plus personne n'avait repris le flambeau. Alors Gus essayait de l'économiser, sa prune, et aussi le peu d'eau-de-vie de poire qui lui restait. Mais il n'y arrivait pas vraiment, surtout quand il sentait ses bronches racler sur ses côtes. On s'apprêtait à enterrer l'abbé. Ils commencèrent à en parler dès midi. Gus avait les yeux vissés sur l'écran de la télé. Quand les gens pénétrèrent dans l'église, il comprit que c'était seulement les importants qui avaient une place, étant donné que tout le monde ne pouvait pas entrer. Et plus ils étaient importants, plus ils étaient sur les bancs de devant pour qu'on les reconnaisse bien à la télé ou dans les journaux. Gus se demanda si l'abbé aurait apprécié la situation, même s'il envisageait la réponse qu'aurait pu faire le saint homme. Il devait à coup pester depuis là-haut l'abbé, avoir toutes ces enluminures qui lui allaient comme un collier de perles à un chien. Il faut bien reconnaître qu'il y a des vies qui ne sont pas banales, pour que tout le monde soit d'accord sur les qualités d'un homme. Gus avait beau écouter, personne ne lui trouvait un seul défaut à l'abbé. Après tout, ce n'était pas le moment pour ça. Les morts, on a l'habitude de leur pardonner bien des choses, même des choses qu'on ne devrait pas. Quand les caméras filmèrent l'intérieur de l'église où on avait amené le cercueil pour le déposer dans le chœur, Gus compta plusieurs curés. Il trouva que ça avait de l'allure, autant de curés vivants pour un seul abbé mort, surtout quand la musique se mit à retentir et que les voix se mélangèrent dans un grand mouvement liturgique au cours duquel les hommes du culte se partagèrent l'office, marmonnant ou clamant des paroles inchangées depuis des millénaires et qui avaient pourtant l'air de convaincre tout le monde. Gus reconnut les chants, parce qu'il les avait appris, gamin. Il essaya de les reprendre en rythme, mais cette satanée toux le rappela vite à l'ordre. Le journaliste qui commentait l'enterrement à la télé savait apparemment tout de la vie de l'abbé, et ce n'était pas rien. Gus se disait qu'une vie comme la sienne ne se fabriquait pas au milieu des vaches et des cochons, et devait nécessiter l'envie ou le besoin de vouloir du bien aux autres sans qu'il soit question de vous le rendre pour autant. Gus était d'avis qu'il n'y avait guère que la foi qui pouvait amener un homme à se conduire de la sorte, ou bien la peur. Quand la cérémonie fut terminée, il ne restait plus beaucoup de prunes dans la bouteille et les bronches de Gus n'avaient pas l'air de s'en plaindre. Le dernier miracle de l'abbé, pas le moindre. Mars avait hâte de se dégourdir les pattes. Quant à son maître, malgré les grogues, Il traînait plus les pieds qu'il ne les levait, et sa maudite toux persistante lui demandait une grande énergie pour respirer. En fin de journée, Gus eut tout de même le courage de se rendre à l'étable et de lâcher ses veaux les uns après les autres, les laissant se débrouiller pour trouver le pis de leur mère. Ils firent les fous un moment, mais Gus n'avait pas la force de les empêcher de batifoler, même pas de leur crier dessus. Quand les veaux eurent terminé de se gorger de lait à grand renfort de succion bruyante, Gus les rattacha. La chose était facile, une fois qu'ils étaient rassasiés. Après avoir éteint la lumière dans l'étable, il regagna la cuisine par le couloir intérieur avec Mars dans son sillage, aussi leste qu'un courant d'air. Dehors, il faisait nuit. Au moment où Gus s'asseyait sur une chaise pour retirer ses croquenots, il sursauta en entendant qu'on frappait à la porte. Il n'avait pas entendu de voiture arriver. Sûrement à cause de la télé qui fonctionnait toujours, se dit-il. Il se leva, s'approcha discrètement de la fenêtre sur la cour et aperçut une ombre immobile sur la plus haute marche, pareil à un soldat de plomb posé sur son socle. Gus ouvrit la porte et fut vite rassuré en voyant que Mars était tout mielleux. L'homme se tenait sur le seuil, bien habillé, mais pas assez chaudement pour supporter longtemps le mauvais temps. « Qu'est-ce que vous faites là ?» dit Gus, sur un ton qui n'avait rien d'amical. « Je ne vais pas vous déranger longtemps. Auriez-vous une minute à m'accorder ?» On voyait tout de suite que le type avait l'habitude de dire ce genre de choses, tellement les mots semblaient couler naturellement hors de sa bouche. Ce qui chiffonnait Gus, c'était la façon dont il parlait tout en souriant. Il lui était impossible de faire confiance à quelqu'un ayant cette faculté-là.
Ben, « Ça dépend, vous voulez quoi ?»
demanda Gus, curieux de savoir ce que le type faisait dans le coin par ce temps.
« Je suis évangéliste.
Ben, »« Chacun fait ce qu'il veut. En quoi ça me concerne ?»«
Je peux entrer ?» dit-il tout tremblant, vu qu'il faisait sacrément froid dehors et qu'il avait dû faire un bout de chemin à pied à en croire ses godasses trempées.
« Non, vous pouvez pas !»
répondit Gus, avec une voix qui claquait comme quand il voulait appeler Mars à l'ordre ou mettre au pas n'importe quel animal récalcitrant.
« D'accord, comme vous voudrez.
Peut-être que quelqu'un est déjà passé vous rendre visite.
Ben, quelqu'un comme vous, vous voulez dire ?»
« Oui, c'est ça, un homme ou une femme qui serait venu vous parler de l'évangélisme. »«
Et vous le sauriez pas ?»«
Ben, pas forcément, notre communauté est vaste. »«
Ben, vous m'embouchez un coin. »«
Pourtant, il doit pas s'en perdre souvent par ici, des gens dans votre genre. »«
Je vous assure, personne qui est venu, et je doute que Mars ou moi, on ait pu le louper. »«
Si vous le dites. »
Je le dis, et il n'y a pas à revenir là-dessus.
Je ne mets pas votre parole en doute.
Encore heureux.
Vous savez ce qu'est l'évangélisme ?
Je me doute que ça a à voir avec les évangiles, dit Gus d'un ton ironique.
C'est exactement cela. Nous pensons qu'il faut se référer étroitement au
« Je vous arrête tout de suite ».
Vous m'avez l'air bien sympathique, mais j'ai pas de temps à perdre. Et vous non plus, je suppose. Mes bêtes attendent qu'on s'occupe d'elles, et c'est plus important que vos évangileries. Je pourrais repasser à un moment où vous seriez plus libre de m'écouter, ou attendre que vous ayez terminé.
J'ai jamais plus de temps que maintenant, alors vous pouvez vous en retourner d'où vous venez.
Nous sommes tous des enfants de Dieu, fit le type, tout en reluquant l'intérieur de la cuisine, comme pour faire durer un peu plus la conversation.
Il y a un paquet de ces enfants qu'il n'a pas dû reconnaître, si j'en juge par tous les miséreux qui se traînent sur cette terre, ne put s'empêcher d'ajouter Gus.
Ben, il ne les aime pas moins pour autant, vous savez.
Ben, je ne suis pas vraiment sûr que ce soit réciproque.
Est-ce que vous croyez en Dieu, monsieur ?
J'ai jamais eu qu'un nom toute ma vie, c'est Gus. Et j'ai pas l'habitude qu'on me donne du monsieur.
Est-ce que vous croyez en Dieu, Gus ? Décidément, le suceur de Bible n'avait pas l'intention de lâcher le morceau.
« Si j'y ai cru un jour, je ne crois pas que ce soit le même que le vôtre, et de toute façon, ça ne vous regarde pas.
Il n'y a qu'un seul Dieu.
Alors pourquoi on se bat partout dans le monde pour savoir chez qui se trouve le vrai ?»«
Ce que je crois, c'est qu'il est dans le cœur de chaque homme. »
Vous êtes en train de me dire qu'il y a plein de gens qui se trompent, mais pas vous.
Je suppose que chacun doit détenir la vérité et veut la faire admettre aux autres d'une façon ou d'une autre.
Bah, c'est bien le problème.
Vous savez ce que je pense, moi ? C'est que votre Dieu à vous, il montre le bout de son nez quand tout va bien. Jamais quand ça va mal, et je vais même vous faire une confidence, et ce sera la seule. Je suis allé le voir quelquefois au temple. Vu qu'il paraît que c'est là-bas qu'on a le plus de chance de se faire entendre de lui. On a des affaires en souffrance, lui et moi. Eh bien, vous me croirez ou pas, mais il m'a jamais donné la moindre réponse, alors j'ai abandonné. Parce que pour ça non plus, j'ai pas de temps à perdre.
C'est bien, je veux dire, d'aller au temple ou à l'église.
Ben, ça fait un sacré bail que ça m'est plus arrivé, et c'est pas à vous de me dire ce qui est bien ou pas.
« Désolé, je ne voulais pas. C'est pourtant bien ce que vous avez dit.
Maintenant, il faut que vous partiez. Vous allez attraper la mort. Et faites attention à ne pas vous perdre. »«
Je ne me perds jamais, j'ai mon guide, » dit l'évangéliste avec un sourire forcé.
« Faut jamais dire jamais ici. »«
Au revoir. »
Là-dessus, Gus referma brusquement la porte parce que le type était du genre à avoir réponse à tout et qu'il n'avait plus envie de se faire embarquer par de belles paroles. La plaisanterie n'avait que trop duré. Il attendit un moment à l'intérieur. Au moins, le type n'eut pas l'idée de frapper de nouveau. Gus entendit le bruit provoqué par ses talons contre les marches de l'escalier recouvert de glace, puis plus rien. Il resta encore un temps, pour être sûr que l'évangéliste se fût suffisamment éloigné avant d'envisager de remettre le nez dehors. Gus se sentait vidé. Il se dit que c'était parce qu'il n'avait pas l'habitude de parler, et qu'une véritable conversation de cette nature lui demandait une grande énergie, car jamais il ne voulait relâcher son attention de peur d'être entraîné sur une sente bourbeuse par son interlocuteur. Il alluma une cigarette, puis s'assit un moment pour réfléchir au milieu des buissons de fumée qui sortaient de sa bouche et qui semblaient se solidifier sur le cône de lumière venant de l'abat-jour suspendu au-dessus de la table de la cuisine. C'était une étrange sensation de perdre la maîtrise un moment. Gus se rassembla autour de la dernière bouffée de fumée qu'il garda le plus longtemps possible en lui, puis se leva et se rendit dans l'étable pour tirer le fumier, pensant qu'en faisant des gestes intégrés depuis l'enfance, la maîtrise de son petit univers reviendrait plus facilement. Après quelques coups de fourche, Gus se sentit mieux. Il toussait moins. Sans beaucoup réfléchir, il décida de mettre ce bienfait sur le compte de l'agnole. Il en était à racler les derniers brins de paille souillés avec les dents de la fourche quand Mars fit brusquement un bond vers la porte de l'étable en aboyant. Un souffle d'air glacial s'engouffra à l'intérieur. Gus se retourna instantanément et reconnut l'évangéliste qui pointait son nez par le battant supérieur ouvert de la porte, semblable à une créature mythologique, visiblement pas amicale, certainement pas innocente.
Thank you.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Après cette nouvelle pause musicale, nous reprenons le roman de Franck Bouys, Grossir le ciel. Bon Dieu, mais qu'est-ce qu'il fout encore là ? Se dit Gus en reprenant ses esprits et en brandissant sa fourche en direction du suceur de Bible comme un démon de l'enfer voulant embrocher une âme récalcitrante. Puis il lança sur le ton de la colère, sans vraiment savoir si c'était à cause de la peur engendrée par l'apparition subite ou de l'obligation de devoir de nouveau parler. « Putain, mais ça vous plaît de faire peur aux gens de la sorte ?»« Je suis désolé, mais je n'arrive pas à joindre mes collègues pour qu'ils viennent me chercher. Impossible de capter le moindre réseau ici. »«
Un réseau ?»«
Bah, pour mon téléphone mobile, je veux dire. » « Il ne doit pas y avoir assez de bornes près d'ici, » fit l'évangéliste, en montrant à Gus un objet aussi gros qu'une boîte d'allumettes, mais apparemment moins utile à cette heure, précisément à cet endroit. « Parce que c'est avec ce machin-là que vous espérez obtenir de l'aide.
Bah, »« D'habitude, ça fonctionne bien, mais là, rien à faire.
Bah, »« Vous m'étonnez. Et votre guide, il ne peut pas vous aider ? Je croyais que vous vous perdiez jamais grâce à lui. »
Un point pour vous.
M'est avis que ça ne serait pas le dernier si vous preniez le temps d'y réfléchir vraiment.
Est-ce que je pourrais utiliser votre téléphone ? Je vous dédommagerai, bien sûr.
Ben, vous n'aurez pas à le faire, j'ai pas de téléphone.
Ça m'étonnerait, j'ai remarqué qu'il y a une ligne qui arrive jusqu'à votre ferme.
Les fils sont peut-être arrivés jusque-là, mais le téléphone, il n'est pas rentré chez moi pour autant.
Ben, vous plaisantez, j'en ai l'air ?
Comment est-ce que je vais faire maintenant que la nuit est tombée ? Dit le type avec une pointe de panique dans la voix.
Je vois qu'une seule solution pour vous sortir de là.
S'il vous plaît.
C'est de descendre jusqu'à la ferme de mon voisin par le chemin qui se trouve à environ 200 mètres plus bas sur la gauche. Lui, il a le téléphone.
Je ne peux pas vous promettre qu'il vous permettra de l'utiliser, mais je n'ai pas mieux à offrir.
Je suis frigorifié.
C'est peut-être de ma faute.
Je n'ai pas dit ça.
Mais ce serait charitable à vous que je puisse me réchauffer quelques minutes.
La charité, c'est pas dans mes cordes, dit Gus, qui trouvait que le suceur de Bible insistait beaucoup pour entrer un moment chez lui.
S'il n'y a vraiment pas d'autre moyen, alors je vais faire ce que vous dites.
Il n'y en a pas d'autre, je le crains.
Merci quand même.
Pas de quoi. Et refermez la porte du haut. Le froid, c'est bon pour personne.
Quand l'évangéliste eut repoussé le battant supérieur, Gus demeura le nez en l'air, face à la porte, s'attendant à ce que le suceur de Bible revienne l'embrouiller. Les veines sur ses mains tressautaient, comme si de petits vers se trouvaient enfermés dedans. Gus était en train de regarder le film du soir pour se changer les idées. La réception était presque redevenue normale, même si l'image sautillait par moments. Mars se grattait le museau en le faisant coulisser entre ses pattes. Il releva la tête en entendant une détonation. Un western passait à la télévision. Un de ces vieux films avec Richard Widmark et ce grand type costaud qui a toujours l'air de revenir d'un enterrement. Gus aimait les westerns depuis toujours. Mais celui-là ne l'emballait pas, parce qu'il n'y avait pas d'Indiens. Et lui, il se sentait proche de ce peuple, exterminé dans l'indifférence générale. C'était une des raisons qui l'avait amené à se laisser pousser les cheveux au fil du temps. Cette filiation distante, ce signe de liberté, de révolte et de paresse aussi. Sa terre. Gus ne savait pas ce qu'elle deviendrait quand il serait mort. Et pour tout dire, il s'en foutait. Mais tant qu'il serait de ce monde, il se bagarrerait pour la garder et l'entretenir avec respect, comme les Indiens avaient toujours fait avec la leur, jusqu'à la mort. C'était tout ce qu'avait jamais possédé Gus, cette terre, constituée d'une couche arable si fine que récolter le fruit d'une parcelle ensemencée était comme de parier sur le pire des canassons dans une course de pur sang. Pour autant, au moment de la rejoindre, il ne souhaitait pas se retrouver avec n'importe qui au cimetière, et certainement pas avec ses vieux. Il avait d'ailleurs pris des mesures dans ce sens. Une concession toute fraîche qu'il avait achetée, bien loin des cadavres qui devaient continuer à se chamailler au fond du caveau familial. Ça aussi, c'était sa liberté, pouvoir choisir d'être seul dans cette obscurité promise. Pour en revenir aux Indiens, Gus trouvait qu'ils avaient de la noblesse en eux, quelque chose au fond de leurs yeux, que personne n'avait jamais pu leur prendre, comme s'ils avaient toujours su que poser un pied sur le sol n'était pas le plus important et que c'était plutôt la manière qu'on avait de s'en arracher qui en avait. La dignité, c'est ce qui venait à Gus, plus que la fierté. Et la liberté, il était persuadé qu'elle se situait entre deux pas, quand on avait la chance de choisir où on allait. Satané bronche. Gus avait l'impression d'avoir avalé une couleuvre tellement ça sifflait à l'intérieur de sa poitrine. Il ne pouvait quand même pas continuer à enquiller les grogues comme la veille au soir. Alors il se fit chauffer du lait et y mélangea du miel que lui avait offert Abel. Du miel de ses ruches, bien sûr, parfumé à la fleur d'acacia. Gus rajouta une goutte d'eau-de-vie de prune pour le goût. Un drôle de mélange. Ça faisait un jour que l'abbé était en terre. Gus y pensait en se demandant pourquoi les morts ne s'en allaient pas tous à la même allure. Sa mère, elle était partie à l'instant où il l'avait vue accrochée par le cou à une corde de chanvre dans la grange. Le père, le glissement avait duré un peu plus longtemps. Quant à la grand-mère qui avait disparu peu avant son père, Gus y pensait souvent. Il se souvenait parfaitement de la mort de la mémé. Elle avait toujours habité à la ferme. Les choses les plus importantes qu'on lui avait enseignées sur la vie, il les lui devait. Une femme bonne et remplie de gentillesse, qu'il avait en quelque sorte élevée. Gus se rappelait avec nostalgie des airs roulant dans sa bouche comme de petits cailloux au fond de la rivière. Il était surprenant de voir à quel point elle était différente de son propre fils. Et le physique n'avait rien à voir là-dedans. C'était d'humanité qu'il était question. À bien y réfléchir, maintenant qu'elle avait quitté ce monde, Gus se disait que si elle avait vécu aussi longtemps, c'était qu'elle craignait probablement de le laisser seul avec ses parents. Avant de disparaître, elle n'avait plus voix au chapitre depuis Belle Lurette et ne pouvait que constater la façon dont les choses se passaient. Les mauvais coups et les mauvaises paroles qu'elle tentait d'atténuer comme elle le pouvait. Gus adorait quand ils étaient assis au coin du feu et que la mémé lui racontait des histoires anciennes venues de son passé à elle, qu'il n'avait pas connues et qui la rendaient plus souvent triste que joyeuse. Gus ne s'y trompait pas à l'époque. Et ses silences. Ses silences qui le calmaient, comme rien n'avait jamais pu le faire aussi bien depuis. Il lui disait alors qu'elle était une fée pleine de rides et elle répondait en souriant qu'elle n'en était pas une. Que les fées étaient toujours belles et jamais vieilles. Que c'était à ça qu'on les reconnaissait. Quand elle mourut, elle était presque devenue aveugle. Ses yeux ressemblaient à ceux d'une grenouille quand elle va plonger sous l'eau. Gus n'aurait pu dire comment s'appelait cette maladie, mais ce n'était vraiment pas beau à regarder. Avec le recul, il pensait que le fait de ne plus voir distinctement ce qui se passait autour d'elle avait dû sacrement l'arranger, que c'était sa manière à elle de se retirer en douceur sur la pointe des pieds, de tirer sa révérence en floutant la réalité. Entendre lui suffisait amplement. En tout cas, cette idée plaisait à Gus. La mémé était sur la seule photographie qu'il possédait. On la voyait debout sur la plus haute marche de l'escalier, occupée à peler des châtaignes avec ses doigts crochus déformés par l'arthrose. Gus ne se souvenait plus qui l'avait prise, cette photo. Sûrement ce type qui était venu un jour à la ferme, il y avait longtemps, pour poser des questions sur le métier de paysan, son évolution, et qui s'était repointé des années après pour mesurer ce qui s'était passé entre ces deux visites. Au moins celui-là, Gus l'avait trouvé sincère, rien à voir avec un banquier ou un suceur de Bible. Gus ressentait maintenant le besoin de se remuer la couenne. En plus de la crève, il devenait tout mou à ne plus faire son travail en temps et en heure. Ne pas honorer ce contrat passé avec lui-même ne lui plaisait guère. Il était persuadé que tout ce que devait faire un homme, c'était son travail, et que le but fixé et l'occupation générée pour les atteindre étaient comme des sémaphores suffisant à éclairer la vie d'un paysan, et que toutes les interférences n'étaient que des parasites inutiles dont il était vital de se libérer au plus vite. Gus savait pertinemment que réfléchir à sa condition n'était pas une bonne idée. Son cœur se gonflait d'un sentiment qu'il ne pouvait nommer, quelque part à l'opposé de la joie, étant donné que dans ces moments-là, sa solitude devenait son pire ennemi. Il rangea au placard pour le reste de la matinée ce qui lui trottait dans la tête, puis alla réparer dans l'étable deux abreuvoirs qui avaient du mal à cracher l'eau, une histoire de clapet qui restait coincé à cause de la rouille et du sel accumulé. Heureusement, en fouillant dans la remise, Gus trouva un peu de ferraille suffisamment fine qu'il découpa et modela pour bricoler de nouvelles pièces, se disant que ça durerait ce que ça durerait. Au dehors, le soleil commençait à faire fondre la neige sur les toits et les arbres. Mais il ne faisait toujours pas bien chaud. Gus se demanda ce qu'il était advenu de l'évangéliste. Ce fut à ce moment-là que lui vint l'idée qu'on l'avait mené en bateau. En repensant à la façon dont le suceur de Bible était accoutré. Un autre évangéliste l'attendait peut-être dans une de ces voitures confortables et chauffées, et le projet qu'ils avaient, le seul qu'ils avaient certainement eu, était de rentrer chez Gus. Mais pourquoi faire ? Prendre le temps de le convertir ou bien le voler ? Dans un cas comme dans l'autre, il leur avait évité une sacrée déception. Gus avait parfois eu l'occasion de vérifier que les hommes de Dieu n'étaient pas forcément les moins pervers. Mais après tout, pourquoi celui-là n'aurait pas été sincère et ne se serait pas laissé piéger par le mauvais temps ? Tout simplement. Cette émission est terminée pour ce soir et elle a été réalisée par Frédéric Guyon. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Nous retrouverons demain Grossir le ciel de Franck Bouys. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.